Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le récent documentaire de la réalisatrice canadienne Jennifer Abbott, L'ampleur de toutes choses, aborde les changements climatiques sous l'angle de la perte et du deuil. Celle de sa sœur, décédée d'un cancer, mais aussi d'une sortie de crise que les innovations ne peuvent nous offrir. Face à la crise du climat, ne serait-il pas le temps de remettre en question l'adage qui dit qu'il existe une solution technique à tous les problèmes ? La voiture électrique, à la place de la voiture essence, c'est toujours une voiture sur la route. La sortie de crise sera celle d'une importante remise en question pour nous tous. La pandémie nous a appris et nous apprend encore que ralentir pourrait être une piste à explorer. En faire moins, faire différemment, et donc faire une place à la décroissance. Réparer, recycler et moins consommer. Le temps est au commun et cela même en recherche. La science, c'est un bien commun et doit être plus largement partagé. D'où la nécessité de se réapproprier les savoirs et de participer à son élaboration. Certains chercheurs s'intéressent d'ailleurs aux technologies low-tech, nommées aussi basse technologie. Savez-vous ce que c'est ? Pour le savoir, restez là, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science, nous voulions faire une place à la décroissance, moins consommer, recycler, réparer, apprendre à décroître et avoir une empreinte plus légère sur la planète, à penser aux générations futures. Cela alors que nous sommes encore dans une pandémie de Covid-19 et qui nous permettra de faire face peut-être au changement climatique, l'autre crise mondiale. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Yves-Marie Abraham, professeur au HEC à Montréal. Vous enseignez la sociologie de l'économie et vous intéressez à la décroissance. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages, dont le plus récent, Guérir du mal de l'infini chez Éco-Société, paru en 2019, et aussi d'un ouvrage collectif chez le même éditeur, co-dirigé avec David Murray, Creuser jusqu'où, ça c'est 2015. Bonjour, professeur Abraham.
Bonjour.
Donc en temps de crise, nous pensons d'abord et souvent aux solutions techniques et à l'innovation comme sortie de crise. Cela peut être en effet le cas, on pense aux vaccins contre la Covid-19, mais cette solution peut être aussi limitée si nous ne nous attaquons pas également à la source du problème, celle de la croissance continuelle. Est-ce bien de ça dont vous parlez dans votre ouvrage, Guérir du mal infini ?
C'est un des sujets, effectivement, qui est abordé dans cet ouvrage, qui est une synthèse personnelle sur l'idée de décroissance, une idée qui a à peu près 20 ans aujourd'hui, qui est une idée assez simple, en fait, dans son énoncé. Il s'agit d'un appel à rompre avec cette course à la croissance que vous venez d'évoquer. Alors, précisons tout de suite, course à la croissance économique. La croissance de l'amour, je suis tout à fait pour. Il y a plein de choses pour lesquelles on pourrait promouvoir la croissance. Ce dont il est question ici, c'est cette croissance économique, c'est-à-dire en fait la tentative de faire augmenter continuellement en fait la valeur monétaire des biens et des services qu'on produit à l'échelle d'une nation, à l'échelle mondiale. Et on se rend compte que cette tentative en fait a trois conséquences problématiques. C'est au cœur de mon livre, au cœur de notre critique en général. La première, elle est écologique, c'est celle que vous venez d'évoquer, on pourra peut-être y revenir plus longtemps tout à l'heure, mais c'est qu'en gros, ça c'est synonyme pour nous d'autodestruction. Mais même si on pouvait faire durer cette croissance en atténuant les effets écologiques de cet effort, on pourrait aussi la refuser pour d'autres raisons. Alors la seconde raison, c'est que finalement cette croissance, ou cette course à la croissance, comme je préfère l'appeler, s'avère profondément injuste, pose des problèmes en termes de justice sociale, donc de plus en plus évident. Donc ce serait une seconde raison de refuser ce jeu, ou cette course. Et la troisième aussi, c'est qu'elle a des effets très déshumanisants, en fait, sur nous, sur nos aspirations fondamentales en tant qu'être humain. En fait, on se retrouve en quelque sorte des espèces de rouages d'une méga machine à produire des marchandises, et que si on tient un peu à l'idée de liberté, un peu à l'idée d'humanité, il y aurait là une autre raison tout à fait fondamentale aussi de refuser cette course. Donc voilà, la question écologique, elle est centrale, c'est la première question qu'on aborde, mais c'est pas la seule.
Qu'est-ce qui illustre cette crise, cette course à la croissance ? Qu'est-ce qui illustre tout ça pour vous ? Le symbole ou l'exemple le plus flagrant ?
Le symbole. Vous avez évoqué la crise climatique. Ça me donne l'occasion de dire que c'est, à mon avis, un des problèmes aujourd'hui quand on parle de la question écologique, c'est qui consiste à réduire le problème à la crise climatique. En fait, la crise écologique est bien plus vaste que cela. Alors, on a un mot qui pose des problèmes, mais qui a certains avantages qu'on utilise de plus en plus pour essayer de souligner l'ampleur de cette crise. C'est le mot anthropocène, donc qui est un mot qui a émergé il y a lui aussi à peu près 20 ans. Et qui veut exprimer l'idée que nous serions entrés dans une nouvelle ère de l'histoire géologique de la Terre, une ère qui serait caractérisée par le fait que l'espèce humaine serait une des forces géologiques majeures, en fait, à l'échelle de la planète. D'où l'idée que on serait rentré dans une ère, celle de l'être humain. Bon, on voit tout de suite le problème de ce mot, c'est qu'il met en cause l'humanité tout entière, alors qu'une partie de l'humanité n'est absolument pour rien dans le désastre actuel, et qu'il faut pointer évidemment le monde occidental, et on pourrait même dire la bourgeoisie occidentale, celle qui a fait exister cette croissance au départ. Mais le mot a cet intérêt de dire que le climat n'est malheureusement qu'une des dimensions du problème. Alors on pourrait en évoquer une autre qui, à mon avis, au moins aussi dramatique, sinon plus, qui est ce qu'on appelle, de manière un peu abstraite, l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire la mise à mort en fait de quantités d'espèces vivantes aujourd'hui, animales et végétales, et que si on continue sur le rythme actuel, possiblement c'est même l'avenir de l'espèce humaine qui est en jeu.
Qui est menacée, finalement. Voilà. La pandémie nous a appris à ralentir. On a vu du ciel bleu, des ciels étoilés dans les villes, généralement très industrielles. Même on a entendu chanter des oiseaux dans les métropoles, au cœur de métropoles, en pleine journée. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette pandémie ?
Vous évoquez ces quelques petits signaux auxquels on s'est un peu accroché là comme à une bouée de sauvetage, mais quand on les met en parallèle avec d'autres mesures de la situation sur le plan écologique, on se rend compte que malgré ce ralentissement, en fait, on est très loin de ce qu'il faudrait faire pour vraiment améliorer les choses sur le plan écologique. Donc oui, c'est bien dans cette direction qu'il faudrait aller, c'est-à-dire une réduction de la production de marchandises, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Alors si on va plus loin, il va falloir transformer nos sociétés. C'est ça qu'il faut admettre. C'est-à-dire que l'idée de décroissance, elle consiste pas simplement à dire réduisons la quantité de marchandises. Si on fait ça, compte tenu de la manière dont fonctionnent nos sociétés aujourd'hui, ça va être un chaos indescriptible. En fait, puis les humains concernés vont pas l'accepter. Donc politiquement déjà, ça va être refusé. Donc il faut absolument que ce ralentissement soit concerté, soit pensé et soit accompagné en fait démocratiquement. Donc pour que ça fonctionne. D'où les propositions que je formule en sous-titre de mon livre. Donc il faut produire moins, effectivement, mais dans le même mouvement, il va falloir partager beaucoup plus ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc ça remettrait en question le caractère très inégalitaire de nos sociétés. Donc on y revient, c'est une vieille idée, mais il faut la remettre sur la table aujourd'hui. Et pour qu'on ait une chance que ça se réalise et que ça se passe pas trop mal, puis aussi par adhésion à nos bons vieux principes politiques, il faudrait qu'on en décide ensemble, qu'on puisse, là où on vit, donc à une échelle locale d'abord, essayer de concevoir justement ce que pourraient être les limites à se fixer en termes de production et la façon de partager ce qu'il nous faut pour vivre.
Oui, de nombreux discours autour de la transition vers un futur moins énergivore et plus vert mettent en avant l'importance quand même de la technologie. J'espère que je ne fais pas de techno-jovialisme en disant ça. Nous ne pourrons pas complètement nous passer de technique pour y parvenir. Cela ne s'oppose pas forcément à la nature. La technique, c'est aussi la ruse de l'animal. C'est pas moi qui le dis, c'est Louis Marion dans son texte « L'emprise de la machine ». Mais il parle alors des outils, pas des machines, évidemment. Mais par exemple, à Québec, on voit le retour de l'idée d'un tramway plutôt que du troisième lien. Qu'en pensez-vous ?
Bon, le troisième lien est une absurdité totale d'un point de vue écologique, mais même par rapport à la finalité qu'il se fixe, c'est-à-dire d'essayer de décongestionner nos routes. Puisque là, on le sait depuis très très longtemps, en fait, plus on donne de la place à l'automobile, plus l'automobile en prend. Et donc en fait, on voit réapparaître assez rapidement, finalement, ces fameux embouteillages ou bouchons. Donc on est dans une espèce de course sans fin, en fait, qui nous conduit vraiment vers l'abîme, parce que sur le plan écologique, par ailleurs, ça a des effets très concrets. Déjà aller effectivement vers des transports en commun, c'est beaucoup beaucoup plus pertinent. C'est complètement indiscutable. Mais si on poursuit la réflexion, si on essaie de l'amener un peu plus loin, on en arrive vite à questionner même la nécessité de se déplacer, en fait. Parce que là, on reste à un niveau intermédiaire qui est pas satisfaisant. On remplace un mode de transport par un autre, mais Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de s'inventer des manières de vivre ensemble qui n'impliqueraient plus l'obligation quotidienne de se déplacer en fait. Donc comment avoir un monde où finalement nos jambes pourraient faire l'essentiel de la job en matière de déplacement, un monde dans lequel on pourrait encore se déplacer au loin si on le souhaite, en utilisant des bonnes vieilles techniques, parce que bon, quand on fait la critique de la technique, le tramway éventuellement, mais on pourrait revenir à des choses beaucoup plus élémentaires. On a des infrastructures extraordinaires au Québec ou au Canada qui sont les rivières, qui sont les cours d'eau, qui sont des infrastructures naturelles qu'on n'utilise plus et qui historiquement ont été très utilisées. Donc redécouvrir ce genre de possibilités me paraît être une voie intéressante dans une perspective de décroissance.
Je ne sais pas pour l'hiver, mais il y a toute la question évidemment de l'énergie, donc particulièrement appliquée au transport. Nous extrayons encore des énergies fossiles au Canada et le remplacement par des voitures électriques ne pourra pas tout résoudre, ni les voitures autonomes auxquelles on pense, parce que à quoi sert vraiment le véhicule autonome, interroge Célia Isoire dans son livre « Merci de changer de métier, l'être aux humains qui robotise le monde », j'adore ce titre-là. Donc, la voiture électrique par rapport à la voiture, ou une énergie par rapport à une autre, vous en pensez quoi ?
Beaucoup de questions dans une seule. Oui. Comme dit Philippe Gauthier, un de mes camarades du groupe Polemos, du groupe de recherche auquel j'appartiens par ailleurs, la voiture électrique n'est pas là pour sauver la planète ou sauver le climat, elle est là pour sauver la bagnole en fait, donc pour préserver justement un mode de vie associé à un mode de transport qui est l'automobile individuel. Donc on est très très loin du compte. Peut-être que de manière transitoire, oui, cette électrification peut soulager un peu les choses sur le plan écologique, mais c'est clairement pas la direction qu'il faut prendre. Donc on a parlé des transports en commun. Je pense qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin et tenter de repenser des façons d'habiter le monde dans lequel, je le répète, le déplacement quotidien n'est plus une nécessité. C'est une possibilité, mais n'est pas une nécessité. Alors vous avez dit à propos de ma proposition de redécouvrir les cours d'eau comme infrastructure de déplacement pour l'hiver. Mais pour l'hiver, c'est aussi intéressant. Enfin, pourquoi vouloir vivre en hiver comme en été ? Pourquoi ne pas aussi réapprendre à vivre en fonction des saisons, quitte éventuellement d'ailleurs à se déplacer. On pourrait peut-être redécouvrir certaines formes de nomadisme saisonnier. Bon, avec le nombre d'humains sur la Terre, sur la planète aujourd'hui, ce serait pas évident. Mais c'est sans doute vers des choses comme ça qu'on ira de toute façon. Enfin, je crois qu'on y reviendra par la force des choses, en fait.
Et pendant la pandémie, on était tous à la maison. On était ensemble grâce à la technologie numérique. Pourtant, certains chercheurs de la décroissance, dont le français José Alois, je ne sais pas comment le prononcer, que vous aimez bien, se positionne pour un low-tech, pour se réapproprier les technologies. C'est quoi ce low-tech dont on parle ?
Oui, alors José Alloy, effectivement, donc est un physicien et parle de nos high-tech comme de technologies zombies. Vous avez dû voir ce terme sous sa plume. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ça désigne en fait des technologies dont on sait qu'elles n'ont pas d'avenir en fait, qu'elles sont promises à la disparition pour des raisons écologiques dans son cas, essentiellement, parce qu'elles fonctionnent avec des matériaux, des sources d'énergie qu'on n'arrivera pas à fournir, parce qu'elles génèrent des déchets qu'on n'arrivera pas à faire disparaître. Et donc effectivement, ce sont des technologies mortes vivantes. Elles ont l'air de fonctionner, mais on sait que ça ne pourra pas durer. Les low-tech vont un peu plus loin que cela. La perspective low-tech s'inscrit dans un souci écologique, c'est-à-dire quelles sont les techniques qui sont soutenables sur la longue durée d'un point de vue écologique, mais aussi quelles sont les techniques qui, tout en étant soutenables, sont accessibles au plus grand nombre. Donc c'est là où on revient à des techniques beaucoup plus simples, forcément. Il y a une contradiction entre nos high-tech et la... Alors le système industriel est capable de rendre accessible du high-tech aujourd'hui, mais ce high-tech, il est insoutenable. Donc quand on met en... Quand on essaye de satisfaire ces deux critères-là, soutenabilité, accessibilité, là on exclut énormément de choses. Et a fortiori, si on rajoute un troisième critère, qui est celui que je mettrai de l'avant, qui est celui de la contrôlabilité, en fait. Est-ce que cette technique, nous en avons à peu près le contrôle ou pas ? Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on est capable de développer cette technique, de réparer ces outils, ces dispositifs techniques ou pas ? Qui est tout à fait essentiel, au nom de cet idéal de liberté, en fait, que je mettais de l'avant quand je parlais du risque de déshumanisation de la course à la croissance. Ce qu'on perd dans cette course à la croissance, c'est finalement cette autonomie, cette possibilité de décider comment nous allons vivre. Bon, et nos techniques aujourd'hui nous imposent en fait leurs exigences, leurs contraintes, donc aux dépens de cet idéal des
libertés. Et le numérique, vous le placez où par rapport? Est-ce que c'est high-tech? Est-ce que c'est liberté?
Vraiment du high-tech, ouais. C'est du high-tech. Je pense que on le voit d'ailleurs là. Bah déjà, pour si on regarde le premier critère qui est celui de la soutenabilité, on voit que son expansion en fait un gouffre sur le plan énergétique, enfin un gouffre dont on voit pas la fin. Donc si on sauve le numérique dans un monde post-croissance, ce serait quelque chose de très très simplifié qui nous ramènerait peut-être au niveau du courriel. Donc on essaierait de pas se transmettre autre chose que du texte très simple, bon, sur des réseaux qui seraient probablement beaucoup moins étendus, beaucoup moins puissants, beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui. Mais donc voilà, on irait quand même dans la direction aussi d'une réduction, d'une simplification, mais peut-être aussi tout simplement d'une disparition. Je suis resté très fasciné par la lecture d'un texte qui s'intitule en français « La fin de l'abondance ». Qui évoque la question énergétique et qui termine en disant c'est un drame, toutes les bibliothèques aujourd'hui en Amérique, les bibliothèques locales sont en train de passer au pilon leurs livres en papier et passer au numérique. Lorsque nous ne pourrons plus entretenir un réseau internet de grande ampleur, rapide comme c'est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera de notre accès à la culture? Donc, je pense que alors voilà, le livre papier, c'est aussi, ça reste quand même quelque chose d'assez low-tech par rapport au high-tech, et j'en ferai la promotion. En tout cas, moi, je prends bien soin de mes livres papier.
Oui, moi aussi, mais j'aime bien aussi lire en numérique, parce que vous nous voulez tous à la maison et qu'on se déplace un petit peu moins. Le numérique offre ça. C'est sûr que c'est pas tout beau, là, mais ça offre justement la possibilité de rester, comme on l'a vu en temps de pandémie, les uns loin des autres et de continuer à travailler ensemble. Donc, on pourrait imaginer une version plus légère, plus moins énergivore, justement, du numérique pour ça.
Alors, je pense que c'est plutôt, alors c'est des choses qu'il va falloir creuser, mais on va faire des études sûrement sur ce qui s'est passé pendant ces deux années. Mais je pense que une sociabilité qui reposerait sur le numérique est quelque chose qu'il faut refuser. Enfin, je crois pas que elle ait les mêmes effets favorables sur l'être humain que un rapport direct comme celui qu'on a, même si nous sommes séparés par une glace à l'instant même. Malgré tout, on n'est pas du tout sur les mêmes types de relations, et ce numérique entretient finalement aussi cette espèce d'espoir de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois, hein. Je le vois avec mes étudiants qui sont à la fois en classe mais qui sont aussi sur internet, sur Instagram, sur machin, et donc qui ne sont jamais nulle part en fait, hein. Et là je crois qu'il y a quelque chose qui se perd dans cette espèce de quête là, d'ubiquité, qui me paraît extrêmement extrêmement problématique. Alors effectivement, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de données à l'appui pour vous dire qu'il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se jouer, mais je pense que là aussi, au nom d'une certaine conception de ce que nous sommes, c'est-à-dire d'abord des animaux, il y a danger à vivre de plus en plus dans ce monde virtuel.
Oui, vous offrez justement un cours sur la décroissance soutenable. Comment présentez-vous concrètement cette décroissance à vos élèves au HEC, on le rappelle, et qui sont, je pense, de plus en plus nombreux à suivre vos cours?
Mais d'une manière semblable à celle que j'esquisse devant vous à l'instant. J'ai par contre 45 heures pour le faire, donc donc je leur fais lire plein de choses. La présentation de la décroissance consiste à rappeler ce que signifie ce mot, comme je l'ai fait tout à l'heure, donc cet appel à rompre avec la course à la croissance, puis à expliquer pourquoi il faudrait sortir de cette course. Ce qui est pas évident, parce que il s'agit en fait d'une espèce d'idéal mondialisé. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde, au moins chez nos élites, est convaincu de la nécessité de la croissance. Si on veut une bonne vie individuelle et collective, il faudrait croître. En fait, on a pratiquement avec la croissance le seul idéal partagé à l'échelle mondiale. Donc on se dit, bon, pourquoi donc vouloir se défaire de cet idéal alors qu'on a quelque chose qui fait l'unanimité, pour une fois, qui fait l'unanimité aussi par exemple au cœur de nos rapports sociaux. Entre le patronat et les syndicats, il y a convergence sur la question de la croissance. On n'est pas d'accord sur la manière de répartir les fruits de la croissance, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut de la croissance. Donc il y a un gros travail à faire pour justifier cet appel à la rupture par rapport à la croissance, d'où on revient sur les trois arguments que j'ai esquissés devant vous tout à l'heure, l'argument écologique, l'argument que nous n'avons pas évoqué pour l'instant, qui est celui de la justice sociale, et puis sinon l'argument de cette de ce souci de préserver notre humanité.
Justement, parlons-en. Pour lutter contre les changements climatiques, nous pensons souvent que les solutions viendront du côté de l'innovation technologique, mais ça pourrait être du côté de l'humain et de redonner la place au commun. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces communs dont on parle? Ouais.
Si vous me permettez, je vais revenir un tout petit peu en amont par rapport à cette proposition. Je pense qu'il est essentiel de souligner aujourd'hui que cette course à la croissance, quand elle est réussie, c'est-à-dire quand on a un PIB qui augmente, on n'observe pas d'effet positif sur le bien-être des humains concernés en fait. Donc ça c'est majeur.
C'est bien c'est pas plus confortable.
Non, c'est ça. On se rend compte que si on prend le sentiment de bien-être par exemple, il est plus corrélé à la hausse du PIB. Mais si on prend un indicateur plus objectif, puisqu'il est un peu l'indicateur fétiche de notre civilisation, qui est l'espérance de vie, il n'y a pas de corrélation entre hausse du PIB et puis espérance de vie. C'est-à-dire qu'on a concrètement aujourd'hui des pays qui ont des PIB par habitant très différents, et vraiment avec des écarts considérables, mais finalement des niveaux d'espérance de vie qui sont équivalents. Donc, alors par contre, c'est là où j'en viens sur la question de la justice sociale. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que un des facteurs décisifs de l'amélioration du bien-être dans nos sociétés, c'est la réduction des inégalités. Donc là, ça, c'est un argument majeur en faveur de cette deuxième proposition là que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire partager plus ce qu'il nous faut pour vivre, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc ça va impliquer une remise en question de la propriété privée telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire éliminer complètement l'idée de propriété privée, ça suppose plutôt de faire la distinction entre propriété d'usage et propriété lucrative. Je reste propriétaire de ce que j'utilise pour vivre, hein, par exemple un toit sur ma tête, des outils pour travailler, des moyens de déplacement éventuellement. Ça, j'en suis propriétaire. Par contre, je ne peux rester propriétaire de biens que j'utilise pour faire de l'argent, et simplement pour faire de l'argent et pas pour mon usage. Donc pour que d'autres les utilisent pour finalement me permettre moi d'accumuler un profit. Donc c'est ça qu'il faut questionner. Concrètement, ça peut déboucher sur des formes de vie sociale qu'on appelle effectivement les communs. Donc je reviens à votre question. Un commun, c'est quelque chose de finalement très 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 ordinaire. C'est ce que, je sais pas, quand j'en parle à mes étudiants, je leur dis, si vous vivez en colocation, vous avez sans doute un réfrigérateur que vous partagez, et puis vous avez établi des règles d'usage de ce réfrigérateur entre vous. Bon, parfois ça doit frotter sans doute, mais enfin vous y arrivez sans doute. Vous avez communalisé ce réfrigérateur. Il n'appartient à personne. Vous en êtes tous co-responsables et vous avez autogéré finalement cette espèce de collectif autour du commun. Alors voilà, c'est ça l'idée du commun. Et on peut faire ça avec à peu près n'importe quel type de ressources. Alors des ressources tangibles, je viens de parler du réfrigérateur, mais ça peut être des outils, ça peut être de la terre, ça peut être des bâtiments, mais aussi des ressources intangibles. C'est-à-dire du savoir, ça c'est majeur, bon, puisqu'on est dans une émission scientifique, c'est un enjeu crucial que le partage du savoir. En fait, bon, la science d'ailleurs s'est développée sur ce principe-là, sur le principe d'un partage, d'une co-responsabilité vis-à-vis de ce savoir. On est en train d'en sortir aujourd'hui, il y a énormément de tentatives de privatisation du savoir scientifique. Bon, le commun est une façon d'aller vraiment dans l'autre sens, en fait, de refuser cette logique de privatisation, pour faire ce que j'appelle donc de la communalisation.
Oui, ça c'était ma dernière question, c'était justement la place de la recherche et des institutions scientifiques qui est pour l'instant souvent avec une vision plus industrielle ou à courte vue, telle que vos chercheurs, les chercheurs qui s'intéressent à la décroissance le jugent. Donc comment on priorise peut-être des technologies plus soutenables, plus durables? Quelle est la place de la science et de la technologie finalement dans cette décroissance?
Bon, d'abord, la science, elle est soumise à la même logique productiviste que celle que nous dénonçons quand nous dénonçons la croissance. C'est-à-dire que, de même que nous produisons pour produire, hein, c'est ça la caractéristique de notre monde. En fait, on produit pour essayer d'accumuler de l'argent, mais on fait pareil en science, en fait. Qu'est-ce que attendent de nous nos institutions et nos dirigeants? C'est de produire des articles. Bon, après, que ces articles soient vraiment utiles ou pas, c'est pas la question. Il faut qu'on en produise, bon, quels que soient leurs effets. Donc, on a exactement le même problème que partout ailleurs, en fait. Donc, ça, c'est la première critique qu'on peut adresser à nos activités scientifiques. Deuxième critique, moi, qui m'a frappé en commençant à travailler sur ces questions, c'est de voir à quel point, en tant que... je me suis spécialisé un peu en sociologie de l'économie, à quel point finalement j'étais démuni pour penser, pour aborder les grandes questions que nous approchons là dans la discussion, c'est-à-dire la question écologique, la question de l'organisation de notre monde. Même moi, en tant que sociologue, j'étais très peu outillé. Pourquoi ? Parce que finalement, cette logique productiviste est une logique qui nous pousse, qui nous force en fait à nous spécialiser toujours plus et donc à en savoir effectivement toujours plus, mais sur toujours presque rien en fait. Alors là, on en revient à un impératif qui est celui d'une transdisciplinarité qui est pas du tout valorisée aujourd'hui par nos institutions. Alors en principe, oui, on va toujours faire des grandes déclarations d'intention sur la transdisciplinarité. En pratique, c'est extrêmement difficile à mener, à réaliser. Alors que pour affronter les problèmes que nous avons face à nous, il faut absolument qu'on dépasse, ou en tout cas qu'on traverse toutes les disciplines scientifiques, donc qu'elles soient du côté des sciences de la nature ou des sciences sociales.
Ouais, une vraie dernière question. On pense souvent décroissance comme un retour vers le passé, c'est-à-dire se libérer de la technologie, de toutes nos avancées, puis de retrouver la vie de nos grands-parents. Qu'est-ce que vous répondrez à ça ?
Alors, la vie de nos grands-parents, ça serait pas si pire, parce qu'effectivement, il y a quand même des tentatives de mesure, d'évaluation un peu quantitative de ce que serait un mode de vie qui serait soutenable. Là, on prend le premier critère, la première exigence. Bon, ce que j'ai lu là-dessus, il y a des débats, des discussions évidemment, mais pour avoir quelque chose qui serait soutenable, on reviendrait à peu près au mode de vie de nos grands-parents, ce qui est quand même pas non plus monstrueux si on regarde la vie de nos grands-parents dans les années, 50. Bon. Mais c'est vrai que l'enjeu majeur n'est pas de reproduire un mode de vie du passé. L'enjeu, c'est d'inventer une autre manière de vivre ensemble, quelque chose qui soit inédit et en même temps désirable. C'est toute la difficulté. Quand on est dans un monde, on a beaucoup de mal à penser à un autre monde possible. Alors on a l'exemple du passé, mais là, il s'agit vraiment de faire du neuf. C'est vraiment tout l'enjeu actuellement, et c'est là-dessus que j'essaye d'embarquer le plus possible mes étudiants. C'est dans ce travail d'imagination créatrice. C'est un enjeu majeur, c'est-à-dire de faire fonctionner notre imagination pour faire émerger un monde vraiment, vraiment neuf et désirable.
C'est ce qu'on va se souhaiter à la sortie de la pandémie, essayer d'imaginer un monde plus soutenable finalement. Donc merci beaucoup, on était en compagnie d'Yves-Marie Abraham, professeur au HEC Montréal, et vous avez donc un cours de sociologie et d'économie, vous vous intéressez à la décroissance, on en a parlé, on va mettre les ouvrages, quelques ouvrages, parce que vous en avez plusieurs, donc des liens sur notre page. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et micro, cette semaine, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez nos rediffusions à votre radio le jeudi ou sur le site de l'agence Science Presse. Vous retrouvez la page de l'émission Je vote pour la science. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et écrivez-nous, nous aimons vous lire. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.